VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Libreville, bienvenue à notre journal. Au Mali, réaction d'horreur après l'enlèvement et la décapitation d'un fils de chef de village par des hommes armés ce week-end. Un acte de violence dans le cercle de Douenza, région de Mopti, qui viserait à décourager la collaboration entre les autorités maliennes et les chefs de village dans la lutte contre les groupes armés. Selon Moulay Ongoyba, le représentant des jeunes patriotes de Douenza, contacté par Kadiatou Traoré.
Ce sont des bandits armés non identifiés qui sont venus dans les 10 villages du nord de Issé, dans la commune de Mondoro, du côté est de Douanza, en passant vers Gao, à 75 km de la route RN16. Ce sont des bandits armés, ils sont venus enlever. S'ils étaient en train de collaborer avec les forces armées, ils venaient souvent faire la patrouille et ça. Ils sont venus l'enlever, ils sont partis avec lui. Après deux jours, la troisième nuit, ils l'ont ramené et les tirs à 100 ou 200 mètres du village. Et enlever sa tête. C'est ma première fois quand même de voir vis-à-vis. On a enlevé la tête de quelqu'un, si ce n'est pas par le film. Donc ils ont enlevé la tête, sa tête, et mettre dans un sachet et venir accrocher la tête à son hangar, là où il l'avait enlevé. Depuis les événements, quand même, il y a eu des attaques, il y a eu des tueries, mais tuer la personne et enlever la tête de la personne, ça en réalité, c'est ma première fois d'entendre.
Moulay Ongoyba, représentant des jeunes patriotes de Douenza au Mali. Au Burkina Faso voisin, c'est aujourd'hui le dernier jour au pouvoir pour les autorités de la transition. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a fait le bilan de son gouvernement. Tout en étant satisfait des résultats, il a aussi émis des regrets. On l'écoute.
Je regrette le fait que nous n'avons pas pu, surtout sur la question de l'emploi, apporter le maximum de réponses. Parce que aujourd'hui, après avoir écouté tous les discours politiques, toutes les théories de démocratie, quand vous rentrez chez vous, c'est ce qui est servi dans le plat, ça qui est important. Donc, la question de l'emploi, je regrette qu'aujourd'hui encore, au Burkina Faso, il y a des jeunes, il y a des femmes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de source de revenus. Ça, c'est évidemment un regret. La transition a pu faire beaucoup. Nous avons notamment financé environ 3 100 micro-entreprises ou initiatives d'entreprises pour permettre l'auto-emploi et permettre en tout cas de créer des emplois. Mais je conviens que ce n'est pas suffisant. Au regard de la taille des besoins, j'avoue que notamment, il reste encore beaucoup à faire.
Le Premier ministre burkinabé Yacouba Isaac Zida, propos recueillis par notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ronogo. Et puis au Niger, en aspirant de plus à la présidentielle de février 2016, Ibrahim Yacouba, ex-adjoint du directeur de cabinet du président Mahamadou Issoufou, a été investi hier à Maradi, dans le centre du pays, comme candidat de son parti, le MPN, le mouvement patriotique nigérien qu'il a lui-même créé début novembre. En août dernier, Yacouba avait été exclu du parti nigérian pour la démocratie et le socialisme PNDS au pouvoir, après avoir été accusé d'essayer de fomenter ce qui avait été qualifié de projet pour faire main basse sur les structures du parti. Au total, 9 candidats briguent maintenant la magistrature suprême, y compris le président Issoufou et l'ex-président du Parlement Ama Amadou, actuellement en prison.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Centrafrique, la campagne pour les présidentielles et les législatives de mercredi est pratiquement terminée. Le moment de faire le point sur l'avancée du processus électoral avec l'ANE, l'Autorité nationale des élections. Le scrutin avait été reporté jeudi dernier, du 27 au 30 décembre. Les raisons majeures invoquées, les difficultés techniques et logistiques relevées après le scrutin test du référendum du 13 décembre. À Bangui, les explications de notre envoyée spéciale Tatiana Mosso.
La pression monte au sein de l'ANE, l'Autorité nationale des élections. L'instance chargée d'organiser techniquement les scrutins présidentiels et législatifs semble aller au vote à marche forcée, tant les difficultés techniques et logistiques qu'il reste encore à résoudre semblent nécessiter plus de temps. Bien que plusieurs candidats soient sceptiques sur un scrutin crédible et transparent, du fait de délais très courts, le porte-parole de l'ANE s'est voulu rassurant ce matin. Selon Julius Rufin Gwabe Baba, 90% des cartes d'électeurs ont été distribuées, dont au moins 70% à Bangui. Du côté de la formation des agents et membres des bureaux de vote, ils auraient bénéficié d'une formation en accéléré pour éviter les erreurs commises lors du référendum. À ce jour, et selon l'ANE, même dans la précipitation, il y aura bel et bien un vote le 30 décembre. Pendant ce temps, dans le ciel de la capitale, un hélicoptère militaire survole la ville. La campagne entre dans ses dernières 24 heures et les candidats se rassemblent dans les rues de Bangui pour tenter de convaincre les indécis ou de remotiver leurs troupes avant le jour J. Tatiana Mosso pour VOA Africa Bangui.
Toujours concernant la politique centrafricaine, mais au Tchad cette fois, le chef de file de l'opposition tchadienne, Saleh Kebzabo, s'est prononcé hier à N'Djamena sur les élections en RCA. Il a demandé au président tchadien Idriss Déby Itno de ne pas jouer un double jeu dans le pays voisin et à la communauté internationale de s'investir encore plus pour aider les centrafricains à réussir le pari électoral du 30 décembre. Il a aussi parlé du cas de Noureddine Adan, le leader centrafricain qui a proclamé récemment une république du Logone dans le nord-est de la RCA. On écoute Saleh Kebzabo.
Je ne vais pas citer des noms d'hommes politiques centrafricains, mais qu'ils soient à la dévotion du Tchad, c'est-à-dire à la dévotion du début, c'est connu. Il y en a un là, il vient de rentrer en RCA il n'y a pas longtemps, non ? Noureddine Adam. C'est d'ici qu'il est rentré en RCA pour occuper une région, tenter de faire qu'il n'y ait pas d'élection là-bas et de déclarer qu'il y aura la partition de RCA. Il a appris ça où ? Les démons qui nous animent là, il faut qu'on les laisse tomber. Vraiment, je crois que le seul service que le président Déby va rendre aux centrafricains, c'est de cesser de se mêler de leurs problèmes. On ne peut pas mépriser les centrafricains au point de croire qu'on peut leur imposer des dirigeants. Il faut que ça cesse. Donc moi, je crois que la leçon qu'il faut tirer de tout ça, c'est qu'il faut accompagner les centrafricains dans les élections qui arrivent là le 30 décembre. Il faut laisser les centrafricains s'exprimer. Tous les bruits qu'on commence à entendre de fraude et tout ça, là, c'est inhérent à des situations de ce genre. Et ils ont la chance d'être dans un régime de transition. Les enjeux ne sont donc pas les mêmes. Il faut que la communauté internationale les accompagne, qu'ils aillent voter, qu'ils aient un président et que la communauté internationale assiste ce président-là, y compris dans les problèmes de sécurité, pendant quelques années encore pour pouvoir relever la RCA. C'est ça notre vœu.
Le chef de file de l'opposition tchadienne, Saleh Kebzabo. Crise au Burundi maintenant. Début ce lundi à Entebbe en Ouganda, des pourparlers entre le gouvernement burundais, les groupes de l'opposition et la société civile. Le point avec Eddy Issango.
La rencontre d'Entebbe avait failli mal débuter. Un responsable de la délégation gouvernementale ayant menacé de se retirer s'il voyait autour de la table les instigateurs du coup d'État de mai contre le président Pierre Nkurunziza. Lors de la cérémonie d'ouverture présidée par les chefs de l'État ougandais Yoweri Museveni, médiateur de la crise burundaise, chacune des parties a pu s'exprimer brièvement. La réunion d'Entebbe n'est que l'étape initiale d'un processus devant aboutir à la reprise formelle du dialogue. Celui-ci avait été interrompu en juillet à la suite du retrait de la partie gouvernementale peu avant la réélection du président Nkurunziza. Selon le ministre ougandais de la Défense, Crispus Kiyonga, les discussions reprendront le 6 janvier à Arusha, en Tanzanie. Mais Bujumbura a immédiatement affirmé qu'il n'y avait pas eu de consensus sur cette date. Le Burundi est plongé dans une crise depuis la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Sa réélection en juillet n'a fait qu'amplifier la crise qui a fait de nombreux morts.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Irak, le drapeau national irakien flotte de nouveau sur le principal complexe gouvernemental de Ramadi, 7 mois après la prise du chef-lieu de la province d'Anbar par les djihadistes du groupe État islamique. Les précisions d'Idrissa Sédoudia.
Ramadi a été libéré, a déclaré le général Yahya Rasoul à la télévision d'État. Cependant, le chef des opérations militaires dans la province, le général Ismaël al-Molaoui, dit que certaines parties de la ville sont encore sous contrôle djihadiste. Les forces irakiennes avancent ainsi avec prudence pendant qu'elles tentent de désamorcer les centaines de bombes et engins explosifs laissés derrière par les djihadistes. C'est la semaine dernière que les forces irakiennes, appuyées par les frappes aériennes de la coalition dirigée par les États-Unis, ont commencé à avancer dans Ramadi, qui est situé à 100 km à l'ouest de Bagdad, la capitale. Selon le colonel Stephen Warren, porte-parole de l'opération américaine contre le groupe État islamique, la coalition a effectué 630 raids aériens depuis mai à Ramadi et autour de la ville, tout en entraînant certaines des forces irakiennes qui l'ont reprise. Depuis que le chef des djihadistes Abu Bakr al-Baghdadi a proclamé son califat sur une partie de l'Irak et de la Syrie il y a 1 an et demi, son groupe a perdu un certain nombre de places fortes, soit, selon le ministre irakien de la Défense Khaled al-Obeidi, plus de la moitié du territoire perdu en 2014.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.